Bonjour à tous et à toutes, et vous êtes sur 48 FM, il est 9h30. Ce journal vous est présenté par Lola Carvaral.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Dans l'actualité ce matin, le vote pour la nouvelle réforme du calendrier académique s'est clôturé hier. Non approuvé, un soulagement pour les représentants des étudiants. Des trains partout en Wallonie, direction Charleroi, pour lutter contre le fascisme, Thomas Carabin se rendait sur place. Un port de biocarburant, un rapport d'Oxfam Belgique met en cause notre État. Thomas Schaeferzik s'est penché sur le sujet. S'habiller éthique et durable est-il un luxe ? Nicolas Gobier s'est rendu au ciné-débat d'écologie qui se donnait hier à l'Alkylone. Et enfin, en cette journée internationale de la visibilité transgenre, une question se pose. L'université fait-elle assez pour lutter contre les discriminations ? Réponse avec Mev, notre invité plateau. Un changement de rythme scolaire pour les étudiants du supérieur, révoqué Christophe Olivier Ninos.
Depuis quelques temps, un groupe de travail s'était penché sur une réforme du calendrier académique supérieur. Le rapport, les cours commenceraient fin août jusqu'à Noël. Le deuxième quadrimestre débuterait de janvier jusqu'à mi-mai. La deuxième session arriverait directement après la première et non plus fin août. En bref, un alignement sur le calendrier obligatoire.
Mais que pensent les étudiants de cette solution ?
Tout le long du processus, les représentants se sont opposés à ce calendrier qu'ils ont même nommé « calendrier burn-out ». Emilia Oxage, présidente de la Fédération internationale des étudiants.
Nous, ce qu'on regrette dans ce calendrier, c'est qu'il y a beaucoup de questions essentielles qui rythment la vie actuelle des étudiants qui n'ont pas été traitées. Par exemple, les semaines de blocus, les évaluations, les méthodes d'apprentissage. En fait, la réflexion était assez médiocre pour nous, celle de uniquement s'aligner à l'obligatoire, alors que nous, ce qu'on veut, c'est pas un changement de calendrier, on veut une vraie réflexion sur le rythme.
La FEF a donc organisé une pétition qui a récolté plus de 8000 signatures contre ce projet. Le désaccord était aussi soutenu par les universités. Hier, le vote est tombé, le calendrier n'est pas approuvé.
Au final, hier, on s'est fait entendre. Maintenant, on va voir si les bonnes bases vont bien être prises et on va bien travailler là-dessus.
Des manifestants en partance de la gare des Guillemins pour empêcher un meeting d'extrême droite à Charleroi, Thomas Carabin.
Ils sont venus hier pour faire front contre une rencontre organisée par le parti Chez Nous à Guilly. Celui-ci avait invité des membres du Vlaams Belang, du RN français ainsi que d'autres groupes d'extrême droite. Ce front antifasciste rassemble des personnes venant de tout le pays, comme nous l'explique un des membres du front antifasciste liégeois 2.0.
C'est une sorte de coalition d'organisations et d'individus qui luttent contre l'extrême droite à Liège et partout en Wallonie. On a des camarades flamands donc, qui prennent le train spécialement aussi pour venir soutenir la lutte antifasciste en Wallonie.
Ce rassemblement est un succès. La ville de Charleroi a interdit la rencontre pour cause de risque de troubles publics. C'est donc une nouvelle victoire pour le mouvement antifasciste qui se félicite de son impact.
En fait, c'est déjà la deuxième fois cette année que Chez Nous essaye de se rassembler à Charleroi et que sous la pression des militants et des militantes, la ville décide d'interdire le meeting. Je veux dire, avec une organisation et une mobilisation de masse, on peut les faire reculer et forcer la police aussi à interdire ce rassemblement.
La Wallonie est, d'après l'un des membres du Front, une des rares régions d'Europe où l'extrême droite ne s'est pas implantée et il compte bien que cela reste le cas.
S'habiller éthique et durable est-il un luxe ? Hier, à l'Aquilone de Liège, avait lieu une projection débat sur la fast fashion, un événement organisé par le mouvement Écologie. Nicolas Gobier dresse le constat sur place.
C'était facile parce que les stocks, disons, les usines n'étaient pas très loin et quelquefois, moi, je prenais ma voiture et j'allais remplir mon coffre.
La vie d'une petite culotte et de celle qui la fabrique, un documentaire de Stéphane Prigeau qui propose de ralentir notre consommation de vêtements. Mais les petites bourses liégeoises peuvent-elles vraiment consommer éthique sans se ruiner ? Pour le député wallon et écolo Olivier Biera, présent sur place, avant de penser le coût, il faut repenser notre manière de consommer.
C'est des vêtements qui coûtent clairement plus cher que ce qu'on achète d'habitude. Alors, il y a clairement un public liégeois. Après, tout le monde subit la crise aussi. Et les gens qui sont plus dans la précarité, ils n'ont même pas le choix. Ils vont acheter des vêtements les moins chers possibles.
Quelques rares points de vente slow fashion existent à Liège. Problème, les géants de la mode sont imbattables en matière de prix. Alors, comment vendre des habits éthiques à des prix abordables ? Adeline Ferry, fondatrice d'une enseigne de slow fashion liégeoise, Wico Store, explique.
On ne saurait pas la rendre vraiment plus abordable parce que c'est le coût c'est le coût qu'il faut pour payer tous les maillons de la chaîne et pour produire de manière plus durable. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que la fast fashion ne soit plus possible et que la fast fashion ne puisse plus vendre à des prix aussi dérisoires parce que du coup, ça crée vraiment une concurrence déloyale.
Achetez moins, mais achetez mieux, une proposition alternative et écologique qui semble avoir conquis le public liégeois présent hier soir.
Vous êtes toujours sur 48FM, il est 9h35.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la visibilité transgenre. Que fait l'Université de Liège en termes d'inclusion des personnes trans? Pour répondre à nos questions, nous recevons Mève Roland, étudiante en philosophie et lettres. Mève, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante à l'université, vous êtes également une femme transgenre. Est-ce que vous considérez que l'université met suffisamment de choses en place pour l'inclusion des personnes transgenres?
Actuellement, l'université ne fait pas grand-chose pour aider les étudiants et les étudiantes transgenres. Il y a un service pour aider les étudiants et les étudiantes à modifier leur diplôme et faire les modifications administratives, mais en réalité, ça ne va pas plus loin.
Et qu'est-ce que vous attendez comme action que l'université pourrait mettre en place?
Elle pourrait nous aider, par exemple, à avoir accès à des soins psychologiques, à des soins hormonaux, parce qu'ils sont quand même extrêmement durs d'accès. Même en Belgique, ça peut paraître étonnant, mais actuellement, les équipes de genre du CHU demandent des contraintes qui sont globalement des fois illégales. Et du coup, des personnes n'ont pas accès aux traitements auxquels ils ont droit. Et du coup, l'université pourrait nous aider à avoir accès à nos droits. Mais actuellement, ce n'est pas le cas.
J'imagine que malheureusement, vous êtes sujette à des discriminations. Est-ce qu'elles arrivent au sein de l'université?
Oui, c'est déjà arrivé au sein de l'université via des personnes qui étaient engagées par l'université, qui ont eu des propos extrêmement transphobes envers moi-même ou d'autres personnes.
Et qu'est-ce que l'université fait dans ces cas-là?
Actuellement, l'université ne fait rien. Et d'ailleurs, c'est même un peu inquiétant. Par exemple, il y avait eu des collages d'affiches pour le 36e meurtre transphobe de l'année 2023. Et la majorité des affiches ont été retirées le jour même, en fait. Et j'avais reporté ça à l'université et l'université a dit qu'elle ne pouvait rien faire.
Vous attendez donc plus de prise de position de la part de l'université?
Oui, surtout que la vice-rectrice avait promis qu'elle ferait des choses pour les personnes transgenres et plus d'inclusivité. Et aujourd'hui, on peut voir que ce n'est pas vraiment le cas.
Merci, Mève, pour votre témoignage.
De rien.
Notre pays viole les droits de l'homme par l'importation de biocarburants, selon Oxfam Belgique, Thomas Schaeferzik.
Oui Lola, pour rappel, le bioéthanol dans les carburants a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans nos véhicules. Cette directive européenne, la Belgique la respecte, mais continue d'importer de la matière première de plusieurs pays.
Mais alors, où est le problème?
Eh bien le problème, c'est justement l'origine de cette matière première importée en fait. Pour obtenir du biocarburant, on cultive la canne à sucre et on en extrait l'éthanol. Au Brésil et au Pérou, des milliers d'hectares et d'individus sont exploités et les conséquences sont alarmantes, déforestation, problèmes de santé ou encore destruction de la faune et de la flore locale liée aux produits chimiques.
Et dans ces circonstances, que préconise l'ONG?
Alors, selon Oxfam Belgique, il faudrait entre autres renforcer la protection des droits de l'homme, l'obligation pour les entreprises de divulguer des informations sur le commerce du bioéthanol et limiter les traités de libre-échange qui permettent les importations agricoles non durables.
Merci Thomas Schaeferzik, merci à notre invité plateau Mev. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi, même heure, même fréquence avec Nathan, Thiago, Marie-Laure, Jules et Adrien. Belle journée à tous sur 48FM.